Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Xavier Niel, un des entrepreneurs français qui a le plus de succès ces 20 dernières années et qui a changé le paysage de l'entrepreneuriat français à jamais. Dans ce deuxième épisode, puisque vous avez eu un premier épisode, hein, je vous le conseille d'ailleurs vivement, Xavier s'est sorti de prison et se lance dans la bataille des télécoms. Il affronte ses pires ennemis, les nantis. Mais Niel ne s'arrêtera pas là, son ambition semble sans limite. Il va désormais intégrer, lui le pirate, l'establishment français, en devenant milliardaire, aimé des politiques et du public, et aussi des startups, avec des projets grandioses. Bienvenue sur L'Apprenti. Alors L'Apprenti c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails, rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brouin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et c'est toute une histoire. 10 janvier 2012, il fait froid, mais beau, en ce matin janvier 2012. C'est aussi ce jour-là que Niel lance la bataille du mobile avec le lancement de son offre révolutionnaire. 9h10, Xavier Niel entre sur la scène. Il s'inspire vraiment des conférences à la Steve Jobs. D'ailleurs, il porte une chemise blanche et un jean noir. Le ton est incisif, agressif, même on sent presque un Niel en colère. Les pigeons, c'est vous, et vous le savez maintenant. Vous avez été pris pour des vaches à lait. Tant que le revenu moyen par abonné de nos concurrents n'aura pas été divisé par deux, vous resterez des pigeons.
Merci, merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, nous, ils nous font bien marrer. Mais quand même, c'est nous tous les pigeons. Enfin, c'est surtout vous maintenant, parce que moi, je suis déjà passé chez Freemobile. Pour vous, ça va continuer encore quelques minutes, malheureusement.
Il surprend tout le monde, même sa sœur ce jour-là. Niel n'est pas par nature agressif, mais il l'est devenu pour mener cette bataille. Lui qui n'aime pas prendre la parole en public sort totalement de sa zone de confort. D'ailleurs, on le sent bien dans les extraits vidéo que c'est pas sa tasse de thé. À la fin de la conférence, il est ému, il se met presque à pleurer. Il a une bonne raison pour cela puisque sa mère est décédée quelques mois auparavant. Sa mère à laquelle il était très attaché. Sa mère, c'était aussi son fidèle soutien.
Et puis, il y a des personnes qui nous ont quittés, qui avaient participé au lancement de Freemobile. Une petite pensée pour elles, où qu'elles soient. Et puis, mes couscous boulettes, sans qui rien n'est possible, ils se reconnaîtront. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venus. Et je vous dis à très bientôt pour ici ou ailleurs.
Il n'empêche, ces déclarations font l'effet d'un séisme dans le milieu des télécoms. Il propose un tarif de 19,99€, un prix unique pour des communications illimitées. Free casse totalement les prix. Ils sont 4 à 5 fois moins chers que les prix moyens des opérateurs à ce moment-là. Et le tout sans engagement. L'offre la plus choquante, ce sont ces 2€ pour une heure d'appel. Ah d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, il a mis des pièces de 2€ sous les fauteuils pendant la conférence de tous les journalistes. Il leur dit, voilà, je vous offre un abonnement free, vous n'avez plus qu'à décoller la pièce de 2€ qui est sous votre fauteuil. Et faut le dire, c'est une révolution pour les consommateurs et un enfer pour ses concurrents. C'est pas nouveau, on le voit bien que c'est toujours un enfer pour ses concurrents. Et cerise sur le gâteau, à l'époque, si vous étiez client et si vous êtes client de la Freebox, c'est même un forfait mobile totalement gratuit. On peut le dire, c'est une offre, alors je sais pas pourquoi, mais culottée en tout cas. Et le culot, Xavier Niel, lui, n'en manque pas. Mais il faut bien le dire, c'est pas seulement ça. Il a des intuitions fulgurantes qui vont faire de lui une personne incontournable dans l'écosystème français. Et cette bataille des télécoms va le prouver. Tout commence donc en 2006. Une guerre sans merci démarre alors entre Bouygues, Orange et SFR, évidemment Free dès 2006. Le plus judicieux serait de dire tous contre Free à ce moment-là. En France, il n'y a que 3 opérateurs mobiles et l'État français réfléchit depuis quelques temps à ouvrir un marché à un 4e opérateur. Tout va s'accélérer avec l'amende record que les 3 opérateurs mobiles vont récolter pour entendre sur les prix en décembre 2005.
Amende record de 534 millions d'euros pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le Conseil de la concurrence a jugé Orange, SFR et Bouygues Télécom coupables d'ententes illicites.
C'est la plus lourde amende jamais infligée à des sociétés en France. Orange est condamné à payer 256 millions d'euros, SFR 220 millions et Bouygues Télécom 58 millions d'euros.
Vous avez bien entendu, 534 millions d'euros à répartir, évidemment, selon les parts de marché, d'où le fait que Orange soit celui qui paye le plus cher. Malgré cette condamnation, tout semble au point mort pour une quatrième licence. Il faut dire que Sarkozy, président nouvellement élu en 2007, fait ralentir le processus. Sarkozy d'ailleurs, qui est évidemment très lié, et qui est un grand ami de Martin Bouygues, l'ennemi juré de Xavier Niel. Sarkozy lâche même « Je suis assez sceptique et réservé sur le choix d'un quatrième opérateur de téléphonie mobile ». Heureusement, l'arrivée d'un nouveau président à l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, va enfin faire bouger les choses avec le soutien de François Fillon à leur premier ministre. L'ARCEP lance donc un appel d'offres fin 2007. Cet appel d'offres est un échec, car personne ne se positionne, le prix étant vraiment, vraiment très élevé, même pour Free, 619 millions d'euros. En coulisses d'ailleurs, les pressions sur Niel et sur le gouvernement sont à son comble. Un quatrième opérateur détruirait l'emploi. Il ne faut pas que le pornocrate Niel gagne. C'est une véritable campagne de diffamation qui est lancée et qui touche Niel directement. Martin Bouygues, l'ennemi juré, dit à propos de Free « Je me suis acheté un château, ce n'est pas pour laisser les Romains Michel venir sur les pelouses. » Xavier Niel fera d'ailleurs un camion publicité qu'il garera devant le siège de Bouygues avec cette citation « Nous sommes des Romains Michel. » Des menaces de mort sont même proférées à l'encontre de Xavier Niel qui va jusqu'à déclarer « Si je venais à me suicider ou si je devais mourir dans un accident de voiture dans les 3 prochains mois, vous saurez que ces menaces sont sérieuses parce que je ne suis pas du tout suicidaire et que je conduis très prudemment. » Finalement, en 2009, l'ARCEP lance donc un deuxième appel d'offres au prix de 240 millions d'euros et malgré de nombreux concurrents potentiels, c'est finalement Free qui l'emporte seul. Le lancement de 2012 est un séisme dans le monde des télécoms. Il faut le dire, malgré un lancement réussi avec des retombées de presse gigantesques, le réseau de Free est très défaillant. Perte de connexion, trou de couverture, antennes défaillantes. Heureusement, la seule obligation de Free dans le cadre de cet appel d'offres, assurer 27% de couverture avec son réseau. Heureusement, le contrat d'itinérance avec Orange va sauver Free. Orange, donc c'est quoi un contrat d'itinérance, hein ? Orange complète la couverture de Free pour permettre à Free de couvrir le réseau avec une bonne qualité son et données. Ce contrat est signé en 2011 sous la pression de l'ARCEP entre Stéphane Richard et Xavier Niel. Évidemment, cette dépendance, le quatrième opérateur la paie au prix fort. De 2012 à 2019, il verse entre 4 et 5 milliards d'euros à Orange. Il n'empêche, le 10 janvier 2012, écoutez bien, 1,1 million d'internautes ont souscrit un contrat Free Mobile. C'est tout simplement gigantesque. En 2013, ce sont 5 millions d'abonnés, puis jusqu'à atteindre 13 millions d'abonnés en 2019. Le pornocrate, le Romain Michel, il a vraiment gagné sa bataille. Mais il a fait plus que gagner une bataille. Il a entamé la construction d'un empire. Avec le succès des offres de Free, le groupe grandit et se structure, mais garde les valeurs du début. Débrouillardise, radinerie et faire beaucoup avec peu. Comme le dit Xavier Niel d'ailleurs, l'innovation c'est un petit groupe de personnes. Si toute l'entreprise s'y met, ça ne marche pas. C'était pendant une conférence qu'il avait donnée chez Michel Augustin. Pendant très longtemps, Xavier Niel d'ailleurs va vérifier personnellement toutes les factures supérieures à 1000 euros chez Iliad. Free porte cette culture pirate dans son sang. On improvise, on s'adapte, c'est avant tout une boîte de geeks, de techniciens, où l'on est avare de compliments. Il faut dire, Niel a aussi un vrai génie pour s'entourer en recrutant des personnes brillantes qui n'entrent pas dans le moule. Lors de l'intégration d'Alice, opérateur racheté en 2008, il y avait 35 personnes qui faisaient du marketing, alors que chez Free, il n'y en avait une seule. Free, c'est aussi une culture de l'engagement forte. Les salariés véritablement vivent pour l'entreprise. Vous voyez, vous irez voir sur les forums, c'est impressionnant. Par contre, socialement, ces pratiques sont critiquables, c'est le moins qu'on puisse dire. Niel crée par exemple une multitude de petites structures pour ne jamais dépasser les 50 salariés et ainsi éviter la création de comités d'entreprise et minimiser le nombre de délégués du personnel. Une pratique assez courante dans certaines boîtes. Il va d'ailleurs parfois privilégier les prud'hommes pour aller plus vite ou négocier des départs à l'arrache. Quand on part de chez Free, c'est souvent du jour au lendemain. Avec sa petite caisse, merci, au revoir. On pourra d'ailleurs toujours méditer sur cette phrase de Niel à propos des jobs en centre d'appel suite à un reportage de Cash Investigation sur les pratiques managériales douteuses de Free. D'ailleurs, vous retrouverez ce reportage dans les notes du podcast.
Alors, pour terminer cette enquête, méditons sur cette citation. les salariés dans les centres d'appel, ce sont les ouvriers du 21e siècle. C'est un métier horrible. Le job qu'ils font, c'est le pire des jobs. Et devinez qui en est l'auteur. Xavier Niel.
Oui, vous avez bien entendu, c'est bien Xavier Niel qui a prononcé ces phrases-là. 2007, toujours dans la vie de la boîte, Niel perd quasiment ses lieutenants du démarrage, hein, comme Mikael Boukobza, son DG, qui part en Israël faire son alia, et Olivier Rosenfeld, directeur financier, qui a permis le lancement en bourse. Il faut dire qu'en 2007, pour leur défense, l'année a été rude pour ces deux lieutenants qui sont notamment poursuivis en justice, au même titre que Niel, par deux ex-salariés et Fernand Develter, l'ancien associé de Niel sur le Minitel Rose. Après la découverte d'un stratagème imaginé par Fernand Develter, une obscure histoire de papier qu'il a falsifié, son ex-associé des sex shops et du Minitel, les poursuites n'iront plus très loin et se solderont par un accord. Mais ces poursuites vont laisser des traces avec ses départs. Une nouvelle génération d'ailleurs de lieutenants émerge, avec Maxime Lombardini, le directeur général, et Thomas Reynaud, le nouveau directeur financier. Alors Maxime, hein, lui c'est le... Vous tapez sur Google, mais c'est quelqu'un qui a avec un look d'éternel adolescent, plutôt fin rusé, tout en étant diplomate, qui fait merveille, lui, dans les négociations. Thomas Reynaud, c'est l'enthousiaste, au sourire sportif et au talent. Il sait vraiment naviguer avec les marchés financiers, et c'est surtout, au même titre que Maxime, d'ailleurs, un excellent négociateur. Puis 2008, il faut le dire, marque véritablement une étape importante pour Free avec le rachat d'Alice. La guerre des fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, a fait beaucoup de morts. Mais Alice fait partie de ses gagnants avec une part de marché importante. 800 000 abonnés en 2008 et le rachat d'Alice à Telecom Italia va propulser Free dans les tout premiers FAI en France. Pour être plus exact, en deuxième place, juste derrière Orange, avec 4 millions d'abonnés et une part de marché estimée à 25,5% du marché. Donc c'est assez énorme. Il y a de vise aussi l'étranger avec des envies d'États-Unis et le rachat avorté de Deutsche Telekom US. Puis c'est l'Italie, avec un succès équivalent à celui de la France en 2019. C'est même phénoménal ce qui se passe en Italie. Xavier Niel, quant à lui, est déjà parti sur des projets qui vont changer sa stature et son influence en France, les médias, et pas des moindres, Le Monde. La relation de Niel avec les médias est pourtant complexe. Il fait d'ailleurs une déclaration qu'il va regretter pendant de nombreuses années. Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix. Dans tous les cas, comme il l'affirme, l'acquisition du Monde lui permet en un coup de fil d'appeler n'importe quel ministre et d'accroître son influence considérablement. Avec Pigas et Berger, ils vont constituer le trio BNP, pas la banque hein, évidemment, pour acquérir les parts dans le journal Le Monde. Pierre Berger, donc lui, c'est l'ancien président de Yves Saint-Laurent, et Mathieu Pigas, c'est un banquier d'affaires. Pourtant, il n'était pas favori, il faut bien le dire, l'establishment, comme d'habitude, lui préférait Claude Perdriel, soutenu par Alain Minc, évidemment Sarkozy dans l'ombre. Mais le trio BNP rallie les suffrages de la rédaction des journalistes. Niel déclare alors « Le projet, c'est vous. Nous, on veille aux indicateurs économiques. » Et c'est bien ce qu'il va faire d'ailleurs. Mikael Boukobza, qui maintenant se fait appeler Mikael Golan après son alia en Israël, va passer les comptes du Monde au hachoir. Renégociation du loyer, les impayés, les notes de frais, tout y passe. La vie ne sera d'ailleurs pas un long fleuve tranquille au Monde pour le trio, et en particulier pour Niel. La mort du rédacteur en chef du Monde, Eric Israelevlevitch, voilà, j'y suis pas arrivé, mais c'est pas grave. Puis les recherches successives d'un nouveau rédacteur chef sont compliquées, il va même avoir des problèmes avec Pigas, après que celui-ci ait vendu ses parts à un homme d'affaires tchèque. Contrairement d'ailleurs à ses paroles de départ, Niel défend vigoureusement l'indépendance des médias. Mais les résultats financiers sont là, Le Monde gagne de l'argent.
Le deuxième élément, c'est qu'au Monde, il y a eu une séparation claire entre la partie éditoriale et la partie financière. Nous, on a fait notre travail financier. Le Monde a dégagé l'année dernière plus de 10 millions de marge d'EBITDA, ce qui... Pendant des années, je suppose que des gens vous ont dit « la presse écrite ne marche plus, ça ne peut pas aller, Le Monde ne gagnera jamais d'argent ». Aujourd'hui, le groupe Le Monde gagne de l'argent parce qu'il y a aussi des filiales qui marchent bien, enfin d'autres sociétés au sein du groupe Le Monde comme Télérama ou Courrier International.
Il ne va pas s'arrêter là puisqu'il rachète le Nouvel Obs en 2014, puis en un an, entre juin 2019 et juin 2020, il fait les acquisitions successives des groupes Nice Matin, France Antilles et Paris Turf, tous en grave difficulté. Niel, par ses acquisitions, prend une nouvelle stature et devient véritablement influent. Non plus seulement économiquement, mais politiquement. Il devient d'ailleurs en plusieurs reprises l'homme d'affaires préféré des Français et apparaît aussi dans tous les classements des hommes les plus riches de France, notamment celui de Challenge ou de Capital. Il est même nommé Français le plus influent au monde en 2017 par Vanity Fair. Pourtant, son dada, lui, c'est l'investissement dans les startups. On peut le dire, il va devenir la figure tutélaire de l'investissement en France et notamment devenir un petit peu le papa de tous les start-upeurs français, voire le grand-père. Et ça, c'est le grand choix de Xavier Niel. Alors, les investissements, selon Niel, le principe fondateur d'investissement de Niel, il est simple. Il aime être majoritaire dans ses business, il déteste vendre ses entreprises, et donc il reste dans l'entreprise au maximum. 2010 marque un tournant dans la carrière de business angel de Niel avec la création du fonds d'investissement Kima Ventures. Alors Kima, c'est un fonds d'amorçage, un fonds qui investit très tôt dans les projets, et c'est Jérémy Bérébi, lui aussi, un serial entrepreneur qui le dirige et le crée, et Niel qui le finance. Ce fonds d'investissement a pour objectif d'investir à travers le monde dans 50 à 100 startups par an pour un investissement moyen de 150 000 euros. En mai 2019, Kima Ventures a investi dans environ 750 startups. Fin 2010, le média américain Business Insider cite Kima Ventures comme étant le fonds de Business Angel le plus actif au monde par son nombre de participations. Jérémy Bérébi va investir dans deux startups par semaine. Son successeur à la tête du fonds depuis 2015, Jean de la Roche-Brochard, a gardé le même rythme de fou. C'est ce qu'on peut appeler du venture capital au format industriel. Jérémy Bérébi quitte Kima en 2014-2015. Jérémy d'ailleurs n'ayant pas aimé que Xavier fasse des investissements directs alors que lui ne pouvait pas, selon les termes de Kima Ventures. Et notamment, je crois que celui qui est resté en travers de la gorge, celui de Capitaine Train. Les investissements de Niel ne s'arrêtent pas aux startups. Dans les télécoms, il investit en direct seul. Il achète par exemple avec sa holding personnelle le troisième opérateur mobile suisse, puis Monaco Telecom. Alors, on peut le dire aussi, au-delà des investissements, Niel, c'est aussi l'ami des entrepreneurs et investisseurs américains. Il fait souvent le guide de Paris pour ses prestigieux amis et notamment la visite des catacombes, une de ses passions depuis qu'il a 20 ans. Il parle d'ailleurs dans cette vidéo de cette belle relation avec Bill Gates. C'est un peu du name dropping, hein.
Je suis très copain avec, je suis camarade avec Bill Gates et il a la gentillesse à chaque fois qu'il vient à Paris de me voir. Et il me dit, t'es un peu le seul que je peux voir parce que tous les autres ne veulent pas le voir. Ils ont peur que je leur demande de partager leur argent avec des fondations. Donc j'arrive plus à voir grand monde parfois. J'ai l'impression qu'ils m'évitent.
Ces investissements dans les startups américaines sont aussi très florissants. Alors je vous ai fait une petite liste non exhaustive. Snapchat, connaît bien Evan Spiegel. Square, Jacques Dorsey. Uber, Airbnb, Slack qui vient de se vendre pour 23 milliards. Nest. Mais il a aussi investi dans de belles réussites françaises. Deezer, Devialet, Alan, Luco ou encore Zenly. Pour vous faire marrer, hein, Xavier aussi a investi dans un film de Kev Adams, puisque ses enfants adorent Kev Adams. Il a aussi investi dans une mine de bauxite, ou bien racheté l'ancien bateau de Bernard Tapie, le Phocéa. Ou bien aussi, alors voilà ce que j'ai trouvé, c'est un cheval de course qui gagne beaucoup de courses. Mais après les télécoms, on peut le dire, son dada favori, c'est l'immobilier. Les hôtels, un centre commercial à Sarcelles, un golf à Chantilly et en particulier les hôtels particuliers dans Paris. 2016, c'est par exemple l'hôtel Coulonges, place des Vosges. 31 millions d'euros qu'il achète et fait rénover. C'est un bâtiment classé monument historique. Ah oui, j'ai oublié, Xavier Niel, pour 10 millions de dollars, aurait même pu avoir des actions de Google en 2000, mais il a refusé la négociation à Chopin sur le prix. À l'époque, Xavier Niel, en tout cas Free Iliad, était 3-4 fois plus gros que Google. Puis ça a un petit peu changé. Hein. Mais les investissements les plus symboliques que Niel va faire à partir de 2013 vont avoir un retentissement français et international. L'école 42, la première école de dev sans diplôme, et enfin et surtout Station F, le plus grand incubateur au monde. Est un premier tournant dans les projets visibles et symboliques de Niel avec la création de l'école 42. Alors les écoles, hein, Xavier a déjà attaqué le sujet puisqu'il s'est lancé avec ses grands amis Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, et Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur de Vente Privée, dans la création de l'école européenne des métiers de l'Internet, EEMI. Mais il veut aller plus loin. Il veut un système égalitaire où l'école est gratuite et ne délivre pas de diplôme. Il veut en quelque sorte développer de nouveaux pirates. C'est donc un projet qui lui tient à cœur. On pourrait dire qu'il veut faire des petits Niels. Niels s'associe alors avec Sadirac, rencontré dans les années 80, vous vous rappelez dans l'épisode 1, hein, dans les sous-sols de l'espionnage français. Donc Nicolas Sadirac, lui, a fondé, avant ça, la Web Academy, un cursus gratuit de 2 ans destiné à former les jeunes de 18-25 ans au développement web. Niels, en découvrant le concept, décide de le pousser plus loin avec l'école 42. La méthodologie développée par Sadirac est très ambitieuse puisque 42 s'appuie sur un système 100% peer-to-peer, autrement dit, sans professeur, sans diplôme et sans curriculum. Le 15 juillet 2013, 42 ouvre ses portes et c'est un succès incroyable avec 80 000 candidatures et 3 000 étudiants qui passent le test de la piscine. Le projet va encore plus loin puisque Niels rachète pour 12 millions d'euros le bâtiment en face de 42, dans le 17e arrondissement pour ceux qui connaissent, pour le transformer en dortoir et héberger les étudiants pour moins de 200 euros par mois. Xavier voit grand et la version américaine ouvre ses portes en novembre 2016 pour un investissement de plus de 80 millions d'euros. L'école 42 est désormais dans 20 pays et Sadirac quitte le projet en 2018 après des soupçons de malversation. Mais le grand projet, le vrai bébé de Niels, c'est Station F, l'incubateur géant de start-up. Le 23 octobre 2014, Xavier Niels annonce la création du plus grand incubateur de jeunes pousses au monde qui accompagnera plus de 1000 startups avec 4000 personnes dans le 13e arrondissement à Paris au sein de la halle Fraissinet. Et c'est lui qui finance l'essentiel du projet en investissant la bagatelle de 250 millions d'euros sur ses fonds propres évidemment. Le 29 juin 2017 à Paris, il inaugure en présence du président Emmanuel Macron le campus Station F. Et pour lui, c'est vraiment une forme de triomphe que l'aboutissement de ce projet. Il est d'ailleurs applaudi à tout rompre lors de l'inauguration et puis même porté en triomphe par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Cette longue série d'applaudissements le met mal à l'aise lorsque notamment Roxane Varza, la directrice du campus à l'époque, le remercie.
Et évidemment, je veux également remercier l'homme incroyable qui est derrière ce projet, Xavier Niels.
Mais au-delà de cette consécration, Xavier Niels est désormais un membre de l'establishment lui-même. Tout a changé pour lui. Le timide n'est plus. Il a pris une autre stature. Laquelle ? Défilé de mode, déjeuner avec à la main, car apparemment quand on déjeune avec à la main, c'est la consécration ultime. Rencontre avec les personnes les plus en vue du Gotha économique mondial et français, on peut le dire, Xavier Niels fait désormais partie du paysage français, mondial, économique, voire politique. Il est même en couple depuis 2010 avec Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, la première fortune de France, qui d'ailleurs voit la relation d'un mauvais œil dans un premier temps avant de l'accepter pleinement. Nicolas Sarkozy a même décidé de venir chaleureux, il n'écorche plus son nom. Il l'appelait Niels et en intimité, il l'appelait aussi le pornocrate. Bref, il a mené une vraie OPA sur tout l'écosystème français. Médias, start-up, politique, tout y passe. Alors, quel va être vraiment l'héritage de Xavier Niels ? Il veut d'abord protéger ses enfants, comme il l'a déclaré à plusieurs reprises. Il craint de les abîmer sous le poids d'une richesse transmise et non conquise. John, Jules et la petite dernière Elisa, née en 2012 de sa relation avec Delphine Arnault. Quand on a une fortune importante, je pense, ça devient quasiment un bien public, déclarait-il sur le plateau du Grand Journal en 2015. Il va donc développer une fondation et faire de la philanthropie comme son ami Bill Gates, comme il le disait précédemment. Au fond, ses vrais enfants, ce sont les startups, les jeunes de 42 ou tous ses salariés à cœur. Cet anti-système qui s'est quand même bien embourgeoisé comme il le reconnaît lui-même, cherche des nouveaux modèles pour ses jeunes.
Et vous, vous êtes dépassé ? Vous êtes embourgeoisé ?
Ouais, bien sûr. Et c'est un vrai sujet difficile. C'est que souvent on me dit, mais venez, vous avez l'image de l'entrepreneur parfait, entre guillemets, français. Je suis trop vieux. Je peux pas donner envie à un môme de 18
ans. Avec l'âge, c'est terminé, on arrête.
Bah ouais. Ah je peux pas donner envie à un môme de 18 ans ou 20 ans en lui disant je suis comme toi, mais je suis pas crédible.
Et quel sentiment ça vous procure ? C'est de la frustration ou au contraire ?
Non, ça me donne envie d'aider à créer d'autres modèles, de créer d'autres modèles, de trouver d'autres jeunes qui vont être capables de me donner la possibilité de partir à la retraite tranquille en me disant « super, il y a un autre groupe de jeunes qui sont arrivés et qui créent cette image de jeunes entrepreneurs ou de gens qui vont bouger la société. »
Alors, que retenir de l'histoire de Xavier Niel ? Il faut le dire, un jeune Xavier Niel était prêt à tout pour réussir. À Carnac, il a souvent franchi la ligne jaune, comme lui fera remarquer le juge Renaud Van Ruymeck lors de sa détention en 2004. Rappelez-vous, pour l'épisode 1, les veilleurs de nuit qui étaient payés pour allumer les minitel la nuit pendant ces heures fermiques. Il va quand même finir par s'assagir, notamment après son passage par la case prison. Pourtant, sa motivation, elle, ne s'est jamais assagie. On peut le dire, c'est le mépris des élites pour son parcours, le pornocrate Niel, comme il l'appelait ses bourgeois, qui nourrissent son feu de l'ambition. Xavier, c'est le gars normal, le gars simple, et c'est ce qui me frappe le plus, après avoir regardé des dizaines d'interviews. Vous savez, le truc là, qui quand il parle, on a l'impression que ça pourrait être son voisin. Bah, c'est ça qui m'a vraiment frappé, contrairement à probablement la plupart des gens qui sont dans le classement challenge. Mais la différence, c'est que ce gars normal, il a une capacité d'apprendre qui est totalement incroyable. Il comprend, il apprend vite, c'est ce qui aussi revient dans ce que les gens disent à propos de lui. Il applique aussi tout le temps ce qu'il a appris jeune. On se démerde avec ce qu'on a, tout en faisant le moins cher possible. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans toutes ses expériences, tout ce qu'il a vendu, tout ce qu'il a fait. Et surtout, on fait tout soi-même. En cela, d'ailleurs, il ressemble plus à Jeff Bezos qu'à Steve Jobs. Il est aussi très curieux et une soif de reconnaissance qui paraît immense. Il ne s'arrête jamais. J'ai senti notamment dans ses dernières interviews qu'il est à la recherche de ses successeurs, ses petits pirates, comme il pourrait le dire, de ceux qui vont disrupter la France. Il a accompli son destin et maintenant apparaît plus calme. Mais en est-il terminé pour autant ? Merci. Merci d'avoir écouté L'Apprenti. Ce podcast, ce sont des heures et des heures de travail et de recherche. Et votre écoute est très précieuse pour moi et pour toute l'équipe qui est derrière. Gaëtan, Eric et tous les autres. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Et si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Et pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, vous savez, les petites infos non divulgables, les citations, etc., abonnez-vous à notre lettre sur l'apprenti.fr. Vous y retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.